Chapitre 19. Après cette soirée, Violette réussit à se contenir. Il ne fut plus échangé un seul mot désagréable entre Mrs. Tempest et sa fille. Mais la mère savait que le cœur de Vixen était plein d'amertume et que toute entente cordiale était désormais impossible entre elles deux. La mère et la fille, du reste, se parlaient fort peu. Violette se tenait autant que possible éloignée de sa mère. Mrs. Tempest continuait sa vie indolente dans son salon, passant de longues journées inoccupées. Parfois, de ses petites mains ornées de pierreries, elle commençait une fine broderie, puis la laissait inachevée pour prendre un livre qu'elle lisait ou faisait semblant de lire. Par-ci par-là, une page de Tennyson, d'Owen Meredith ou de Browning, à moitié comprise tout au plus. Beaucoup de thé à l'orange sirotait dans une tasse de vieux Worcester ou de Royal Swansea à fleurs bleues. Quelques lettres écrites sur papier à la mode, dernier genre. Banalités élégantes, délicatement calligraphiées d'une main souple et molle, avec de longues queues bouclées aux Y et aux G, et un petit paraphe serpentin à la fin de chaque mot. Tel était le bilan de sa journée. Impossible d'imaginer d'existence plus inutile et plus fade. Il n'est pas jusqu'aux charités de Mrs. Tempest qui ne fussent distribuées de seconde main. C'était le rôle naturel d'une châtelaine de s'intéresser aux pauvres et aux malades du village, de s'informer de leurs besoins afin de leur faire porter à l'occasion un peu de vin ou de soupe, du pain ou des vêtements. Mrs. Tempest s'en remettait pour tout cela à la vieille Trimmer, qui faisait tout. Pour le voisinage, la vraie châtelaine de l'abbaye, c'était elle. C'est à elle qu'allaient les demandes. On ne craignait que ses réprimandes, c'est elle qui avait les saluts les plus humbles. Quant à Mrs. Tempest, cette beauté fanée qu'on voyait passer à travers un nuage de poussière, mollement étendue sur sa Victoria, enveloppée de crêpes de Chine, c'était pour les pauvres une sorte de divinité inaccessible, et ils ne pouvaient s'imaginer qu'elle fût faite de la même argile qu'eux. Le capitaine Winstanley avait paru dans cette existence indolente comme une brise du nord dans l'étouffante langueur d'un après-midi d'août. Son énergie, sa vivacité d'action, aussi prompte que la pensée, impressionnèrent Mrs. Tempest et lui donnèrent une haute opinion de sa mâle énergie et de sa supériorité d'esprit. Avec lui, elle n'aurait plus rien à craindre, aucun danger ne pouvait l'atteindre, aucune difficulté ne pourrait l'assaillir tant qu'elle aurait son bras pour la protéger. Dans Conrad Winstanley, elle avait trouvé son maître. Cette domination lui plaisait. Elle était heureuse de déposer tout son pouvoir à ses pieds. Sa position de veuve était excellente. Le testament du baronnet avait été fait avec la plus sincère confiance et cette certitude des hommes robustes qu'il se passera bien du temps avant que leurs dispositions testamentaires soient mises à exécution. Le testament était entièrement de sa main. Il n'avait pas voulu l'intervention d'un homme de loi dans cette affaire. Mrs. Tempest était usufruitière de l'abbaye sa vie durant, et à sa mort, Violette Tempest en devenait propriétaire. Cette dernière ne devait être déclarée majeure qu'à 25 ans. Jusque-là, sa mère était sa seule tutrice et maîtresse absolue de tout. Il n'était pas question d'une somme allouée à l'héritière, ni d'accumulation des revenus. Tout devait appartenir à Mrs. Tempest jusqu'à la majorité de Violette. Elle était libre d'élever sa fille comme elle le jugerait convenable. À la majorité de Violette, le domaine devait passer en sa possession, à charge de servir à sa mère une rente viagère de 15 000 livres. Jusqu'à 25 ans, Violette se trouvait donc entièrement sous la dépendance maternelle, forcée d'obéir à sa mère comme à son unique maîtresse, sans avoir recours à aucun tribunal pour statuer sur leurs différends s'ils s'en élevaient. Le capitaine Winstanley s'était naturellement renseigné sur les particularités du testament. Il se voyait seul maître pendant 6 ans d'un très beau domaine. puis, après ces 6 années, réduit à un revenu qui lui paraissait peu de chose, comparé à la jouissance d'une propriété comme l'abbaye. Mais, somme toute, 15 000 livres formaient un assez joli denier, et le capitaine trouvait qu'il n'avait pas complètement perdu son temps. Ce fut un mois de juin bien triste pour Violette. Elle se renfermait dans son chagrin, elle ne se confiait même pas à la bonne Mrs. Scobble, qui, cependant, était tout disposée à la plaindre, et qui s'indignait secrètement de la folie de la veuve. Le prochain mariage de Mrs. Tempest était connu de tous, amis et autres, et il avait produit l'effet ordinaire. Le monde la félicitait et faisait l'éloge du capitaine Winstanley. On espérait que le mariage se ferait bientôt, et tous disaient qu'il serait très agréable à Miss Tempest d'avoir un beau-père aussi charmant avec lequel elle pourrait aller à la chasse comme autrefois avec son bon père. Mais les mêmes personnes qui parlaient ainsi dans le salon de Mrs. Tempest changeaient de ton le dos tourné, et dès qu'elles se trouvaient dans leur landau ou leur calèche, traitaient la veuve de folle et son futur mari d'aventurier. Violette se tenait éloignée de toutes ces réunions intimes. Elle n'allait même pas voir ses vieux amis, les Scobble. Elle abandonnait les écoles, les pauvres étaient délaissés. Elle oubliait même les petits-enfants du village. Toutes les œuvres de charité étaient maintenant laissées aux soins de Mrs. Trimmer. Vixen allait faire de longues promenades à cheval dans la forêt, seule, s'isolant avec son cheval, son unique compagnon. Roderick était allé à Londres pendant la saison. Il était le cavalier servant de Lady Mabel dans toutes les parties de plaisir, aux soirées et aux fêtes. « Je me demande comment il peut supporter cette vie de salon, toute cette poussière, cette musique, ces expositions, » pensait Violette avec une irritation sauvage. « Comment il consent à être traîné partout, tenu en laisse comme un terrier poméranien ? Si j'étais un homme, il me semble que je n'y résisterais pas. » Mais quand on aime, il faut croire. Alors Violette songea à son dernier entretien avec Roderick, et combien il y avait peu d'enthousiasme et d'amour dans ce qu'il disait de sa cousine. Au fond du cœur, je sens qu'il l'épouse ou pour sa fortune, ou parce que c'était le désir de sa mère, et qu'il a été trop faible pour dire non. Je ne le dirai devant personne, et je ne souffrirai pas qu'on le dit devant moi. Mais dans le cœur de mon cœur, je suis sûr qu'il ne l'aime pas. » Puis, après un silence plein de méditation, il lui échappa ce cri auquel les bois muets ne pouvaient pas répondre. « Oh, que c'est mal! C'est abominable! Quelle folie horrible de se marier sans amour !» Bien que muets, les bois lui parlaient à leur façon de Roderick Vaudrey. Combien de fois ils avaient suivi côte à côte ces sentiers boisés. Tout enfant, il conduisait son poney par la bride dans les passages difficiles et il écartait les branches devant elle. « Je croyais que Rory et moi, nous devions vivre toujours ensemble, » se disait-elle. « Maintenant, nous voilà séparés et je n'y puis rien faire. » Elle voyait le nom de Monsieur Vaudrey dans les journaux de la Fashion. L'existence de la ville lui plaisait sans doute. Elle avait entendu dire qu'il était membre du Four Hound Club et qu'il était fort remarqué dans Hyde Park. On ne parlait pas encore cependant de son entrée au Parlement, c'était l'affaire de l'avenir. Depuis le soir où Mrs. Tempest avait manifesté son intention de prendre un second mari, Violette et le capitaine Winstanley ne s'étaient rencontrés que devant témoins. Le capitaine avait essayé de donner à ses manières une certaine familiarité paternelle, mais Violette avait accueilli toute tentative amicale par un froid dédain, ce qui tenait à distance Conrad Winstanley. « Nous nous comprendrons mieux plus tard, » se disait-il, irrité par cette froideur. « Ce serait malheureux de troubler par une scène la tranquillité de ces jours de bonheur. Je saurai bien comment conduire Miss Tempest, après. » Il ne la désignait jamais que par cette appellation, Miss Tempest. Il ne l'avait plus jamais appelée Violette depuis la nuit du pavillon. C'était une période toute de sérénité pour Mrs. Tempest. Elle vivait dans une atmosphère de douces paroles et au milieu des froufrous de la toilette. Son attention allait d'un nœud de ruban à un compliment, ballotté entre un galant murmure et un flot de dentelle. Conrad Winstanley était un charmant amoureux. Ses ennemis n'auraient pas manqué de dire que la chose lui était arrivée assez souvent pour lui donner une grande expérience de la situation. Mrs. Tempest vivait dans un rêve délicieux, un rêve de fumeur d'opium. Elle était enchantée de son fiancé et encore plus d'elle-même. Elle trouvait flatteur d'exercer à 39 ans une si forte influence sur la puissante nature du capitaine. S'il n'avait pas bouleversé le monde pour lui témoigner son amour, il était du moins prêt à abandonner la vie active qui plaît aux hommes, pour lui consacrer son existence et se plier à la vie de province. Il avouait avoir vécu, il confessait ses anciennes amours, mais il ajoutait à sa fiancée qu'elle éveillait dans son cœur des sentiments jusque-là inconnus, que la tendresse qu'il éprouvait pour elle avait tout l'enthousiasme d'un premier amour, la première affection vraiment pure qui eût submergé et élevé son âme. Après l'entretien de Violette et de Mrs. Tempest, la jeune Miss ne témoigna sa désapprobation qu'en évitant constamment sa mère. Si elle avait pu aboutir à quelque chose par des remontrances ou des reproches, elle n'y eut pas manqué, mais elle savait que le capitaine et sa mère étaient constamment ensemble, et son influence devait succomber devant celle de Conrad Winstanley. Elle se tenait donc tranquille, se contentant de haïr l'aventurier qui venait voler la place de son père. Crime impardonnable à ses yeux. Elle ne pouvait admettre qu'un autre homme vint s'asseoir et commander en maître là où avait commandé son père bien-aimé. Elle eût eu plus d'indulgence pour la folie de sa mère si la veuve eût choisi un mari ayant à lui une maison dans laquelle il aurait emmené sa femme, laissant l'abbaye comme un temple consacré aux morts. Les manières de Mrs. Tempest envers sa fille étaient empreintes tout à la fois de conciliation et de désapprobation. Il lui était pénible de voir Violette garder ainsi la défensive, et elle reprenait souvent ce thème, non sans de nombreuses variations, quand elle parlait de Violette avec son fiancé, pour lequel elle n'avait pas de secret, ne lui cachant même pas tout ce que Violette avait dit de lui. Il l'écoutait, les lèvres serrées, les yeux brillants de colère, mais lui répondait avec une indulgence paternelle. « N'est-ce pas dur pour moi ? » concluait-elle. « Ma chère Pamela, je vous crois trop intelligente pour vous laisser péniblement impressionner par les caprices d'une enfant volontaire. Votre fille a une noble nature, mais elle a été trop gâtée par une indulgence excessive. Miss Tempest et moi, nous arriverons à nous comprendre plus tard. » « Je sais que vous serez un second père pour elle, » dit Mrs. Tempest tout en larmes. « Je ferai mon devoir envers elle, soyez-en sûre, ma chérie. » Encore un mois et le mariage allait être célébré. Il était fixé au 31 août, admirable saison pour une lune de miel en Écosse. Mrs. Tempest aimait à voyager quand tout le monde voyageait. Les montagnes et les torrents n'auraient eu aucun charme pour elle, si elle les eût visités à toute autre époque que la season. Le moment était venu de parler à Violette de sa toilette, ainsi que Mrs. Tempest l'avait solennellement fait remarquer à la femme du vicaire, à laquelle elle avait confié la méchanceté de sa fille dans la soirée de la fête scolaire. « Il est bien triste pour moi, répétait-elle, bien triste que le seul obstacle à mon bonheur vienne de mon enfant. » « Violette aimait tant son père, » dit Mrs. Scobble à titre d'excuse. « Ce n'est pas une raison pour me traiter si méchamment. Qui a plus aimé que moi ce pauvre Edward ? J'ai toujours eu en vue son bonheur. Il n'y a jamais eu entre nous le moindre mot. Personne ne peut demander que je meure veuve pour prouver mon affection à ce cher Edward. Pendant mon existence, mes moindres actions l'ont prouvé. Je n'ai rien à regretter, rien à expier. » Je me sens libre de récompenser le dévouement du capitaine Winstanley. Depuis 2 ans, il m'a suivi partout et il m'est resté constant en dépit de bien des échecs. Il m'a demandé 3 fois avant que je cède. » Mrs. Scobble avait eu souvent le privilège de cette confidence. « je sais, chère Mistress Tempest, » interrompit vivement Mrs. Scobble, de peur que son amie ne recommençât encore son récit. Il paraît certainement vous aimer beaucoup, mais aussi, d'après le monde, vous êtes un excellent parti pour lui. Me croyez-vous capable de l'épouser si j'attribuais à cette considération la moindre influence sur lui ? Demanda Mrs. Tempest avec indignation. Et Mrs. Scobel ne put en dire davantage. Il est des cas d'aveuglement physique qui défient la science des plus habiles chirurgiens. Mais il n'y a pas d'aveuglement plus incurable que celui d'une femme frisant la quarantaine et qui se croit aimée. « Mais la toilette de Violette, » reprit Mrs. Scobel, désireuse de mettre la conversation sur un terrain moins brûlant. « Ne lui en avez-vous réellement pas encore parlé ?»« Non, elle est si volontaire et si têtue. J'ai peur d'en parler. Mais il faut en finir. La chose doit être décidée immédiatement. Cette Théodore est toujours si occupée. Ce sera une vraie faveur d'avoir la robe faite en si peu de temps. » « Pourquoi ne pas en parler à Violette cet après-midi ?»« Pendant que vous êtes ici, oui, je pourrais le faire, » répondit vivement Mrs. Tempest. La présence de Mrs. Scobel lui donnait le courage d'aborder un pareil sujet. Il y avait une certaine protection dans l'appui d'une tierce personne. « Miss Tempest est-elle revenue de sa promenade à cheval ?»« Oui, madame, elle vient de rentrer. »« Alors, priez-la de venir ici. » « Dites-lui bien de ne pas prendre le temps de changer de robe. » Mrs. Tempest et Mrs. Scobel étaient assises dans le salon devant une fenêtre ouverte à côté d'une petite table. La veuve était enveloppée dans un châle en crêpe de Chine, de peur que la brise légère ne fût trop vive pour sa constitution délicate. La théière était sur la table, on eût dit deux enfants occupés à faire la dînette. Violette entra, tout essoufflée de sa promenade, son amazone tachetée de boue. « Vous vous êtes encore embourbée !» s'écria Mrs. Tempest avec un extrême dégoût. « Un de ces jours, ce cheval causera votre mort. »« Je ne le crois pas, maman. Comment allez-vous, Mrs. Scobel ?»« Violette, » dit gravement la femme du vicaire, « pourquoi ne venez-vous plus jamais à nos services de semaine ?»« Je ne sais pas. » Je ne suis pas en humeur d'aller à l'église. Il ne sert à rien d'aller s'agenouiller dans un saint lieu quand le cœur a des velléités de révolte. Je vais au service du dimanche par convenance, mais je ferai mieux de ne pas aller au service de semaine tant que je ne serai pas dans de meilleures dispositions. Je ne pense pas, ma chère, que ce soit là moyen d'arriver à de meilleurs sentiments. Violette ne répondit pas. Il y eut un moment de silence assez embarrassant pour toutes les trois. « Ma fille, voulez-vous prendre une tasse de thé ?» demanda Mrs. Tempest. « Non, merci, maman. À moins que vous n'ayez quelque chose de particulier à me dire, je ferai bien, je crois, dans l'intérêt de votre tapis, d'aller changer de toilette. J'ai trop chaud, je suis toute poudreuse. Je ferai bien de passer une robe. Mais j'ai quelque chose de très particulier à vous dire, Violette. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Prenez donc une tasse de thé. » « Comme vous voudrez, maman. » Et, oubliant que sa robe était couverte de boue, Violette se jeta dans un fauteuil en satin capitonné, n'épargnant pas un coussin de tapisserie brodé par sa mère elle-même. « Je vais écrire à Madame Théodore par le courrier de ce soir, Violette, » lui dit sa mère, en lui présentant une tasse de thé et faisant semblant de ne pas s'apercevoir de la destruction de son coussin. « Je voudrais lui commander votre robe pour le mariage. » J'ai pensé que la nuance bleu pâle et crème vous irait particulièrement, ainsi qu'un chapeau crème forme Van Dyck, orné d'une longue plume d'autruche bleue. « Ne vous occupez pas de cela, maman, je vous prie, » dit Vixen, que le mot de mariage avait fait pâlir, et qui maintenant se tenait droite, bien résolue, sur sa chaise. « Je n'assisterai pas à votre mariage, je n'ai donc pas besoin de robe. » « Violette, » commença Mrs. Tempest, qui tremblait déjà. « Vous ne pensez certainement pas ce que vous dites. Vous avez été très méchante. Depuis 6 semaines, vous m'avez rendue réellement très malheureuse. Mais je ne puis pas croire que vous m'insulteriez aussi grossièrement en refusant d'assister à mon mariage. »« Je n'ai pas l'intention de vous insulter, maman. Je regrette beaucoup de vous avoir fait de la peine. » Mais je ne puis ni ne veux être présentée à un mariage dont la seule pensée m'est odieuse. Il ne sera pas dit que ma présence aura sanctionné la folie que vous voulez commettre. Violette, y songez-vous ? Avez-vous réfléchi à ce que dira le monde ? Je crois que le monde, notre monde, a déjà son opinion faite au sujet de votre second mariage, maman, répondit tranquillement Vixen. Mon absence ne changera rien. Mais au contraire, et vous le savez bien, s'écria Mistress Tempest, arrivée à une colère qui ne lui était pas habituelle. On dira que ma fille désapprouve mon mariage. Ma fille qui devrait sympathiser avec moi et se réjouir de ce que j'ai trouvé un ami sincère et un protecteur. Je ne puis ni sympathiser ni me réjouir, maman. Il vaut mieux que je n'assiste pas à votre mariage. Je paraîtrai malheureuse et je troublerai la gaieté des autres. Votre absence m'humiliera et m'abaissera aux yeux de mes amis. Ce sera pour moi une grande humiliation. Vous agissez ainsi dans le but de m'insulter et de me blesser. Vous manquez à vos devoirs de fille. Oh, maman, s'écria Vixen d'une voix grave, avec un regard de reproche dont la fermeté fit baisser les yeux à la veuve en pleurs. N'y a-t-il donc aucune réciprocité dans les devoirs? Mon père nous a laissés toutes deux, mère et fille, pour être tout l'une à l'autre. Il nous a laissés maîtresse du foyer qu'il partageait avec nous. Pensez-vous qu'il accueille avec joie un étranger qui vient prendre sa place et se rendre maître de tout ce qu'il aimait? Croyez-vous qu'il ait pu prévoir que, moins de 3 ans après sa mort, sa place serait prise par le premier venu et que l'on demanderait à sa fille de donner à un autre le nom de père? Le premier venu, pleurnicha Mrs. Tempest. Oh, cela est par trop cruel. Violette, dit Mrs. Scobble d'un ton de reproche, quand vous serez plus calme, vous regretterez d'avoir parlé aussi durement à votre mère. Je ne regretterai jamais d'avoir dit la vérité, reprit Violette. Ma mère n'a entendu la vérité que trop rarement dans sa vie, et ce n'est pas le capitaine Winstanley qui la lui dira. Après avoir lancé ce dernier trait, Violette ramassa la traîne de son amazone et sortit. Il est malheureux que je ne sois pas restée avec Arion au fond du bourbier dans lequel je m'étais engagée, pensa-t-elle. Je ne crois pas que personne ait besoin de moi sur cette terre. Avez-vous jamais rien vu d'aussi humiliant, d'aussi honteux ? Demanda Mrs. Tempest avec tristesse, lorsque la porte se fut refermée sur sa fille en révolte. Que dira le monde si Violette n'assiste pas à mon mariage ? Ce sera certainement terrible, à moins que l'on ne trouve quelque bonne raison à son absence. Le monde est si méchant, personne ne voudra admettre une excuse. Cette cruelle enfant m'humiliera complètement. Elle paraît tout à fait prévenue contre le capitaine Winstanley. C'est très malheureux, mais je crois que cela passera avec le temps. Si j'étais à votre place, chère Miss Tempest, je commanderais la robe quand même. Vraiment, vous le feriez, Fanny ? Oui, je commanderais la robe, et je m'en fierais à la Providence pour le résultat. Vous finirez peut-être d'ici là par la décider. Mais je ne puis pas m'humilier, je ne veux pas que ma fille me foule aux pieds. Évidemment non, mais il faut que vous ayez Violette à votre mariage. Si je racontais au capitaine Winstanley ce qu'elle a dit, il serait certainement fort en colère, mais à votre place, je ne le lui dirais pas. Non, je ne dirai rien. Cependant, le même soir, le capitaine Winstanley savait les moindres paroles prononcées par Vixen, avec quelques petites exagérations inconscientes, difficiles à éviter chez une femme du caractère de Mrs. Tempest.